Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont en ligne, donc, ou seront en ligne pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire d'ici là. On aura Élisée Mpatine depuis Boïcon au Bénin, Jules Valentin Ngoué en direct de Libreville au Gabon, mais aussi Amdinsi dans l'Ohio ici aux États-Unis. Mais en attendant, en direct depuis Ouagadougou, on a Mohamadi Bagué, entraîneur de football, okay, pour nous parler du désormais regretté Idrissa Malo Traoré, oui, saboteur. Dans Sporama de ce lundi 4 décembre 2023, les matchs interclubs des compétitions africaines, okay, le deuxième tour des éliminatoires de la prochaine CAN féminine Maroc 2024 et le championnat du monde féminin de handball qui se déroule présentement au Danemark, en Norvège et en Suède. Merci à vous et à tous et à vous, chers auditeurs, bien sûr, de rester à l'écoute. Nous commençons avec cette page triste annoncée depuis hier. Le football burkinabé africain est en deuil avec la mort hier de Drissa Malo Traoré, dit saboteur, décédé dimanche 3 décembre, donc à l'âge de 81 ans. Pour la petite histoire, il a été le premier coach burkinabé à qualifier le Burkina Faso sur le terrain pour la CAN 96 en Afrique du Sud. Saboteur a formé plusieurs générations de joueurs, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique ou encore au Gabon. Et pour parler de son héritage, nous sommes en direct de Ouagadougou avec Mohamadi Bagué, entraîneur burkinabé de football, je le disais, qui a été coach adjoint, okay, de Saboteur, alors entraîneur des étalons locaux, entre 2015 et 2018. Okay. Mohamadou Bagué, bonsoir.
Oui, c'est lui-même.
Vous m'entendez, Mohamadi Bagué?
Ok. Ok.
Voilà, et donc on a un peu de mal à avoir Mohamadi Bagué depuis Ouagadougou, qu'on va essayer de rappeler, je ne sais pas, Josel. Voilà, et donc on a Élisée Mpatine en direct depuis Boïcon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci Élisée. Alors, je le disais tout à l'heure, quand on dit le nom saboteur, ça vous évoque sans doute quelque chose. Dites-nous, l'homme est décédé hier dimanche 3 décembre 2023 à l'âge de 81 ans. Qu'est-ce que vous retenez du saboteur?
Un grand technicien. Et au début des années 90, il a surtout marqué le football ivoirien de son passage du côté de la SEC Mimosa, puisqu'il a battu un travail très remarquable de ce côté-là. Drissa Traoré, dit saboteur, a aussi été l'un de ces rares locaux à entraîner, bien sûr, l'équipe nationale, les étalons de Burkina Faso. C'est un grand technicien, l'instituteur CAF, qui a beaucoup apporté à ce football, non seulement burkinabé, mais aussi au football africain. Et il faut dire que le Burkina Faso vient de perdre un grand technicien et que qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Que la terre soit légère et que paix à son âme.
Alors, Élisée, d'aucuns reprochaient à Idrissa Malo Traoré, dit saboteur, un jeu trop défensif et d'aucuns disaient qu'entre-temps, il était dépassé. Est-ce que c'est votre avis?
Non, pas du tout. Il a son style de jeu. Et quand je disais que son passage du côté de la SEC a marqué, surtout les supporters ivoiriens, vous imaginez, à un moment donné, c'était la suprématie de l'Africa Sport d'Abidjan avec les frères Traoré, les frères Traoré, Kader et Touré. Vous imaginez que on a fait partie un entraîneur étranger et qu'il est venu. C'est avec ce schéma tactique-là qu'il a permis justement à cette équipe Mimosa, à cette équipe de la SEC d'Abidjan, d'aller battre bien sûr l'équipe des Aigrons, bien évidemment l'Africa Sport, qui est restée invaincue durant toute la saison. Donc, quelque part, ce système de jeu trop défensif, l'a aidé énormément dans des contextes qu'on ne peut pas trop énumérer ici, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça lui a réussi. Donc, chaque entraîneur avec son schéma tactique, nous avons vu Mourinho réputé pour son schéma trop défensif, mais avec le Real Madrid, il a pu marquer plus de 100 buts. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul entraîneur qui a réussi à amener le Real Madrid au titre de champion de la Liga avec la meilleure attaque. Vous imaginez donc, quelque part, le schéma défensif peut aider les entraîneurs à ne pas encaisser. Là, c'est l'animation offensive qui doit permettre à l'équipe d'aller inscrire beaucoup de buts. Donc, à des moments donnés, jouer aussi défensivement, ça aide beaucoup certaines équipes qui, avec ce schéma-là, vont aller chercher des titres.
Merci beaucoup, Élisée. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir en cours d'émission. On a du mal à joindre Mohamedou Bagué, entraîneur donc de football burkinabé, qui a été l'entraîneur adjoint des étalons locaux, avec Saboteur comme entraîneur principal entre 2015 et 2018. On va tout de suite passer à la Ligue africaine des champions, dont les matchs de la première journée se sont disputés le week-end écoulé. Et bien sûr, dans le groupe A, égalité de 3 points avec les 4 clubs, hein, après que le tout-puissant Mazembe a battu Mamelodi Sundowns 1-0 et les Mauritanais de Ouagadougou ont dominé les Égyptiens de Pyramide FC 2-0. Alors, Amdine, c'est une belle opération, hein, pour les Congolais du TP Mazembe qui se relancent.
Ah oui, c'est une très belle opération, hein, des Congolais du puissant Mazembe qui ont battu quand même Mamelodi Sundowns, qui vient de remporter comme la première édition de la Super League africaine. Donc, c'est un exploit réussi par les hommes du coach sénégalais Lamine Diaye. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Ça n'a pas été du tout facile, hein, puisque c'était un match très difficile. Il fallait négocier et ils l'ont négocié pour marquer un but et s'imposer finalement. Je pense que le tout-puissant Mazembe s'est bien relancé dans cette compétition, Yacouba.
La SEC d'Abidjan partage la tête du groupe B avec les Botswanais de Swaneng Galaxy, 4 points chacun. Galaxy a fait match nul 0-0 contre Simba SC, tandis que les Ivoiriens ont battu les Marocains du Wydad Casablanca sur le fil 1-0. Les Wydadi enchaînent les défaites. Amin Birouk.
Alerte rouge au Wydad de Casablanca qui vient de subir sa 4e défaite d'affilée, la 2e en phase de groupe de la Ligue des Champions. Les champions 2022, finalistes en 2023, sont en ballotage défavorable. Ils sont même dans une posture inconfortable après leur échec face à la SEC d'Abidjan, 2-0, au cours d'une rencontre où ils ont étalé au grand jour, au grand soir, puisque la rencontre se déroule en nocturne, toutes les lacunes actuelles de l'équipe, manque de combativité, manque de vivacité, effondrement mental après le but ivoirien et incapacité à créer du danger devant le but adverse, une équipe prévisible, lente, stéréotypée, complètement lessivée mentalement, et dire que son entraîneur a essayé par tous les moyens depuis quelques semaines de changer cette dynamique négative. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quelques semaines à peine, cette même formation avec ces mêmes éléments parvenait à atteindre la finale de l'African Football League, était même à 90 minutes du succès dans cette première édition de cette nouvelle compétition. Ce qui est certain, c'est que le Wydad est maintenant dos au mur. L'équipe doit très vite se ressaisir. A priori, le prochain match contre l'équipe de Simba pourrait être aussi le dernier de son entraîneur Adil Ramzi, de plus en plus contesté par les supporters. Dans un club en pleine ébullition, avec beaucoup de problèmes administratifs, étant donné les ennuis judiciaires de son président, le très controversé Saïd Nasseri. Ce qui est certain, c'est que le match de Simba, samedi prochain, pourrait être un examen. Le tournant du parcours du Wydad de Casablanca, qui n'a jamais perdu autant de matchs consécutifs depuis le début de ce siècle, qui n'a perdu 2 matchs consécutifs en phase de groupe de la Champions League que lors de la saison 2016-2017. Mais à l'époque, l'équipe avait commencé ce parcours ou son parcours qualificatif par une première victoire face à Coton Sport. Autant dire qu'aujourd'hui, les supporters sont en alerte. Ils attendent une réaction des joueurs du Wydad de Casablanca. Si elle n'arrive pas, ce sera la fin d'un cycle victorieux, vertueux, qui aura duré près de 9 saisons.
On espère bien que ça ne sera pas la fin d'un cycle. Le club angolais de Petro de Luanda prend du coup, seul, la première place du groupe C avec 6 points, soit 3 de plus que les Soudanais d'Al Hilal victorieux, 3-1 de l'Espérance de Tunis. Jules Valentin Ngoué vient de nous rejoindre depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et donc je le disais, les Angolais se détachent donc et sont presque en quart de finale après quand même 2 matchs, 2 victoires dans la poule C.
Oui, mais ce qui est logique, c'est que déjà la saison précédente, ils avaient pratiquement joué de malchance, parce qu'on a senti une équipe qui est bien préparée et sûrement bien sponsorisée et qui prend tous les moyens pour se mettre à un niveau convenable, un peu comme les Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Et on l'a senti, mais sur un coup de dé, ils ont raté leur qualification. Et je crois que cette année-là, on remet la même chose sur la table et surtout, on se sert de cette expérience pour s'améliorer. Je crois qu'il faudra compter sur le retour des Angolais sur la scène africaine.
Dans le groupe D, Al Ahly du Caire, tenant du titre, garde la tête avec 4 points malgré son nul d'un but partout face aux Tanzaniens de Young Africans. Alors, Élysée, la belle opération quand même dans ce groupe est à mettre à l'actif des Ghanéens du Madiama FC qui se sont imposés à domicile face aux Algériens du CR Belouizdad 2-1 et qui se positionnent en deuxième rang.
Oui, bien évidemment, puisque quand on suit par exemple la première sortie de cette équipe ghanéenne face à l'Ali du Caire, on se demandait même que est-ce que cette équipe pourra arriver quand même à battre une de ces équipes expérimentées dans ce groupe-là, puisque Mediama n'a pas du tout existé devant le national à l'Ali du Caire tenant du titre, mais paf, voilà, pour sa seconde sortie, Mediama s'est montré encore plus costaud et a pu battre le champion algérien, le CR Belouizdad, qui voulait quand même franchir un palier, puisque durant les deux dernières éditions de cette Ligue des champions africains, les Algériens sont allés jusqu'en quart de finale et aimeraient faire mieux cette saison, pourquoi pas une demi-finale, même aller en finale, mais déjà se fait battre par un modeste club ghanéen. C'est vrai que, bon, quand je parle de modeste club, c'est quand on va comparer un peu les deux clubs. Vous imaginez, CR Belouizdad, c'est un club professionnel, alors que le club ghanéen regorge rien que des joueurs ghanéens qui évoluent dans le championnat. Donc, vous imaginez un peu, il y a le niveau qui a parlé. Donc, les Ghanéens se sont bien comportés et bien, ils se sont relancés tout simplement dans ce groupe-là. Et la troisième rencontre, puisque ce sera pratiquement un match aller et retour, donc cette équipe de Mediama doit jouer gros contre le Young Africans de la Tanzanie. Et là, ça ira très très vite, puisque ça va se jouer en aller retour et tout est encore possible dans ce groupe-là.
Hier se sont aussi disputés les matchs de la deuxième journée de la Coupe CAF. Les clubs égyptiens sont sur une bonne lancée. 2 matchs, 2 victoires. Le Fitu FC 2-1 sur la pelouse d'Al Ahly Benghazi et le Zamalek 4-0 en Guinée face à Koya. Amdinsi, les Guinéens qui comptent aucun point en 2 sorties sont dans le dur.
Oui, l'apprentissage est très durant pour cette jeune formation guinéenne qui a perdu sur sa pelouse face au de Zamalek, 4-0. Cela prouve que, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de niveau, mais il leur manque beaucoup de choses pour pouvoir exister dans cette compétition qui est très élevée, il faut le dire. Le niveau de la Coupe de la CAF est presque identique à celui quand même
de la Ligue des Champions.
De la Ligue africaine des Champions, hein, il faut le dire. Mais c'est comme ça, c'est leur première participation. Il faut apprendre pour revenir plus fort l'année dernière. Mais encore rien n'est encore perdu, hein, c'est 2 journées seulement. Maintenant, je ne dirais pas que les carottes sont cuites pour ces Guinéens, mais ce sera très difficile hein, pour revenir à la hauteur des adversaires comme Zamalek, etc. Yacouba.
Le stade malien a raté le coach devant les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane, vainqueur 2-1. On écoute tout de suite Sekou Sek Dibako, coach du stade malien de Bamako.
C'est difficile de perdre un match comme ça à domicile. Certes, je reconnais qu'en première mi-temps, l'équipe était carrément à la rue. Il fallait changer de discours dans l'adversaire à la mi-temps et changer quelques joueurs, même notre dispositif sur le terrain. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a fait un très très bon match qui, pour moi, méritait autre chose que de marquer un seul but.
Sekou Sek Dibako, coach du stade malien de Bamako, des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne. Match difficile contre une grosse équipe, selon Issoufou Dayo, capitaine de la Renaissance sportive de Berkane.
C'est un bon résultat, on s'était préparé pour ça, pour pouvoir faire un bon résultat ici, voilà,
pour nous faciliter la qualification à Dakar. La différence, voilà, nous on a été calme, serein, et avec notre expérience en campagne africaine. On s'est dit, voilà, c'est en première mi-temps, il faut plier le match. Et on est arrivé à marquer deux buts en 45 minutes. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'on avait une très belle équipe face à nous. Ils ont essayé de pousser. Et voilà, un but, il le mérite. Et voilà, et je pense que ça s'est joué en première mi-temps.
Issoufou Dayo, capitaine de la Renaissance sportive de Berkane, qui domine donc sa poule D, Amin Birouk.
Tous les voyants sont au vert pour la Renaissance sportive de Berkane qui a enchaîné un deuxième succès consécutif, le premier déplacement sur les terres du stade malien Bamako. Une rencontre où Berkane a fait étalage de toutes ses vertus actuelles avec un effectif très complet. L'arme fatale de la Renaissance sportive de Berkane depuis quelques années a été le coup de pied arrêté. Ça a été le cas aujourd'hui encore puisque l'équipe a frappé une première fois par Paul-Valéry Bassène, l'attaquant sénégalais de l'ARSB. Titularisé pour la première fois cette saison, ce dernier n'a pas failli à sa réputation de chasseur de but, lui qui vient du Mouloudia d'Oujda, club distant de moins de 50 km de la ville de Berkane, où il était le deuxième meilleur buteur du championnat marocain. Paul-Valéry Bassène a d'ailleurs récidivé 4 minutes plus tard et a permis à l'équipe entraînée par un jeune entraîneur, Amil Karma, de se mettre à l'abri et de réussir un véritable tour de force en dépit de la réaction de l'équipe malienne qui a réduit l'écart à 20 minutes de la fin. La RSB totalise 6 points. L'équipe est troisième du championnat du Maroc avec 2 matchs en moins et semble cette année destinée à jouer les premiers rôles tant en Coupe de la CAF que sur le plan national, c'est-à-dire championnat et Coupe du Trône. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui avec un recrutement ciblé, un effectif solide, une bonne gestion, Berkane est devenu un grand d'Afrique, un grand qui a déjà gagné 3 titres continentaux, 2 Coupes de la CAF et une Super Coupe d'Afrique, et qui est prêt à récidiver une nouvelle fois dans cette compétition, en attendant peut-être de franchir un palier et d'aller la saison prochaine en Champions League.
En attendant, toujours en Coupe CAF, le tenant du titre, l'USM Alger, a signé un second succès, cette fois-ci 2-0 chez les Sud-Africains de Supersport. Dans la poule C, les Tunisiens du club africain victorient 3-1 des Angolais de Lobito, alignent 2 victoires en 2 sorties et sont en tête. Les Nigériens de Rovers United sont classés 2e avec 3 points, malgré leur défaite 2-1 au Ghana face à Dream FC. Alors Gilles, en dehors du club africain, dans cette poule-là, eh bien, la deuxième place, visiblement, pourrait se jouer entre Ghanéens et Nigérians.
Bien sûr, c'est un peu la même configuration dans les groupes où il y a des équipes d'Afrique du Nord qui ont un niveau nettement plus relevé à cause de leur vécu aussi, à cause des grandes caractéristiques de leur formation sportive qui sont des formations modernes. Bon, alors dans ce cas, les autres qui passent en revue, qu'on passe en revue au fur et à mesure que les années passent et le casting change, sont là d'abord pour apprendre avant d'aller un peu plus loin, mais aussi ils cherchent surtout la deuxième place. Bon, alors donc, est-ce que Naj Sadr va percer de là, passer au-dessus des grandes formations rodées qui sont en embuscade? Là, c'est toute la question qu'on peut se poser. Mais pour le moment, on va jouer des matchs les uns après les autres.
Football toujours avec le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. 2 matchs au programme ce lundi. La tenante du titre, l'Afrique du Sud, va être donc de la partie après sa victoire 2-0 contre le Burkina Faso qui l'avait accroché 1-1 à l'aller et presque qualifié. Eh bien, après son succès 5-1, l'Algérie se déplace au Burundi. Élysée, c'était difficile quand même d'imaginer cette CAN-là sans les Sud-Africaines.
Bien évidemment, mais en face, il y a le Burkina Faso qui commence par se faire parler de lui concernant le football féminin. Depuis un bon moment, depuis près de 3 saisons, bien le Burkina Faso commence par faire un travail remarquable du côté de l'Afrique de l'Ouest, surtout quand on parle même de la Ligue des champions féminines, on voit souvent au niveau des éliminatoires des clubs burkinabés qui s'illustrent très bien. Donc, il y a un palier à franchir désormais, mais en face, c'est bien sûr c'est ce qui se fait de mieux sur le continent africain. Quand on parle du football féminin aujourd'hui, l'Afrique du Sud est pratiquement seule en tête, même quand on prend le Nigeria, même la Guinée et équatoriale qui ne fait plus parler trop d'elle. Et donc, vous imaginez, l'Afrique du Sud sera bien sûr de la partie puisque déjà en face, c'est le Burkina Faso et déjà il y a ce nul 1-1. Le Burkina peut déjà être content d'avoir tenu en échec les tenants du titre à l'aller. Eh bien, l'Afrique du Sud sera bien sûr au Maroc et on verra bien sûr encore cette lutte entre le Maroc et l'Afrique du Sud.
Écoutez, c'est votre avis, on le respecte. Hein. Il reste le reste de ces matchs, disons, vont se jouer demain mardi. On saura les 11 équipes qui vont rejoindre le Maroc, pays organisateur de cette CAN féminine l'an prochain. À suivre entre autres Mali, Guinée, Cap-Vert, Nigeria, mais aussi Égypte, Sénégal. Amdine.
Oui, à suivre Sénégal, Égypte ou c'est Égypte même Sénégal puisque c'est l'Égypte qui reçoit, mais on peut dire que le Sénégal a fait déjà la moitié du chemin puisque les Lions se sont imposés par 4-0 lors de la première manche qui s'est jouée au stade Ladior de Thiès. Maintenant, il faudra négocier puisque ce sera historique. Le Sénégal n'a jamais aligné deux CAN de suite et les Sénégalais sont bien partis pour quand même se qualifier pour la seconde fois consécutive. Yacouba.
Du handball avec le mondial féminin, avec le championnat du monde féminin qui se déroule présentement au Danemark, en Norvège et en Suède. Amdine, je reviens à vous. Deuxième défaite pour le Sénégal qui s'est incliné face à l'un des pays hôtes, la Suède justement, 26-18.
Oh, il faut rectifier, Yacouba, c'est pas une deuxième défaite pour les Sénégalais. En match d'ouverture, le Sénégal avait tenu en échec la Croatie. Donc c'est pour le deuxième match.
Pour le deuxième match, c'est ça. Oui, allez-y.
Les Sénégalaises, elles ont perdu le deuxième match. C'est normal face à la Suède, qui est un adversaire redoutable hein, devant leur public. Donc, les Sénégalaises ont perdu. Mais rien n'est encore perdu en post-championnat du monde, puisque les Sénégalaises vont chercher la qualification. Ce sera demain face à la Chine. Si jamais les Lions parviennent à battre cette équipe de la Chine, elles peuvent se qualifier. Pour le moment, elles se comportent pas mal. Un nul face à la Croatie, une défaite face à la Suède. Je pense qu'il n'y a pas perdu à la demeure, Yacouba.
Bien évidemment, la case reste pas encore non en feu. Alors, Élisée, il y avait 3 matchs aujourd'hui. Le Congo s'est incliné 26-31 devant l'Argentine. 26 partout hein, entre l'Angola et l'Islande et le Cameroun l'a gagné 26-23 devant le Paraguay.
Enfin, une victoire enfin, bien sûr. Hein, dans cette compétition, le Cameroun qui a fait forte sensation, hein, Yacouba, il faut le dire, puisque d'abord battre le Paraguay avec 3 buts d'écart, c'est quand même inédit. La grosse déception, c'est bien sûr l'Angola hein, qui domine cette discipline sur le continent, mais qui n'arrive toujours pas à bien s'exprimer sur quand il s'agit non seulement de la Coupe du Monde, mais aussi des Jeux Olympiques. Donc l'Angola doit beaucoup hisser son niveau quand il s'agit des compétitions internationales afin de permettre à l'Afrique de bien s'illustrer dans cette compétition. Bravo Cameroun qui vient d'offrir quand même la première victoire au continent africain. On espère que lors de la dernière rencontre, l'Angola pourra s'imposer et permettre au continent d'avoir, pourquoi pas, des représentants au second tour.
Alors, Jules Valentin Gouet, je reviens à vous. Je l'annonçais en début d'émission. Drissa Malo Traoré du Saboteur, le coach burkinabé, est décédé hier à l'âge de 81 ans. On sait qu'il a été le premier entraîneur à qualifier le Burkina Faso sur le terrain pour la CAN 96. Il est aussi passé par le Gabon, la République centrafricaine ou encore la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous retenez de Drissa Malo Traoré du Saboteur?
Donc, la première chose à retenir, c'est que c'est un Africain. C'est tout simplement un Africain qui a œuvré. Et pour le progrès du football africain, il était un spécialiste de la formation, un passionné, et qui en plus n'a pas eu ce surnom de saboteur pour rien. Donc, il était très apprécié sur le plan tactique. Et le football ivoirien en particulier lui doit beaucoup, parce que à cette époque-là, la Côte d'Ivoire qui était la vitrine, mais en fait l'arrière-boutique avec tous les talents, que ce soit sur le terrain ou que ce soit sur le banc, venait du Burkina Faso. Donc c'est vraiment un grand Africain.
Merci beaucoup, Jules Valentin Boué. Merci à Élisée Mpati, Namine Birouk, Amdinsi. Sporama s'achève. Merci à vous d'être resté à l'écoute de cette émission réalisée par Joselle Morissin. Dans quelques secondes, une nouvelle édition du journal avec Rosine Mounessero.